Alors, chers amis du Cercle européen Pierre Werner, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis content de participer aujourd'hui à cette commémoration, à ce 30e anniversaire, et heureux de voir de nombreuses personnalités qui ont côtoyé pendant de très longues années Pierre Werner. Je commencerai par... avant de rentrer dans le vif du sujet, par une anecdote qui va peut-être en surprendre plus d'un. Mais j'ai eu la chance, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1983 au ministère des Affaires étrangères, de connaître Pierre Werner, qui à l'époque était Premier ministre, jusqu'en 1984. Et c'était la fin de sa carrière politique au premier plan, puisqu'après cela, il a pris sa retraite politique et est resté très actif, très visible. Il était déjà à l'époque, on pourrait dire, un peu un patriarche, parce qu'il avait été pendant 15 ans Premier ministre avant 1974, et puis en 1983, il arrivait à 19 ans de Premier ministre. Donc, personnalité remarquable que moi-même et beaucoup de gens associé à une personnalité de quelqu'un de très prudent, de très conservateur. Et c'est à cette époque-là que Pierre Werner a lancé le projet des satellites Astra, qui s'appelait autrement au début, et qui est le précurseur de la société SES, qui est un des fleurons de l'économie luxembourgeoise. Et c'est Pierre Werner qui a vraiment mené ce projet de front. Déjà, à ce moment-là, j'étais assez surpris de son dynamisme, de sa vision, de son activité. Et j'ai eu confirmation de cela à un autre moment, 5 années plus tard, en 1989. À l'époque, j'étais à notre ambassade de Luxembourg à Paris comme conseiller politique et conseiller économique, et j'avais organisé une visite du journal Le Monde à Luxembourg. Et c'est à l'époque, c'était André Fontaine, que certainement vous connaissez ou avez peut-être même rencontré, et qui était venu lui-même avec une demi-douzaine de journalistes pour faire un supplément sur le Luxembourg qui fera date parce qu'il était de qualité excellente. Et nous avions aussi organisé une rencontre avec Pierre Werner. Et en 1989, et vous allez sourire, nous étions sous le feu des critiques en France parce que le Luxembourg ne voulait pas de la retenue à la source sur les taux d'intérêt. Ce qui nous valait des articles négatifs au rythme quotidien. Bien sûr, c'était une des raisons pour laquelle on avait voulu faire venir Le Monde pour parler un peu d'autre chose au sujet du Luxembourg. Et lors de cette visite à Luxembourg, et après le déjeuner qu'on avait eu en présence de Jacques Santer d'ailleurs et de Pierre Werner, je raconte à Pierre Werner combien c'était difficile de représenter le Luxembourg en France à cette époque, puisqu'on faisait l'objet d'énormes critiques que nous trouvions à l'époque complètement déplacées, exagérées, enfin... en épiloguer, on peut avoir une opinion sur le sujet. Et M. Werner m'a écouté attentivement et après 3 ou 4 minutes, il me dit « Monsieur Gramélien, vous prenez votre métier très au sérieux, c'est très bien, mais je vous vois très inquiet. Ben, » Je dis « Oui, vous seriez à ma place à Paris, vous seriez inquiet, vous aussi. » « Mais oui, M. Gramélien, me dit-il, moi j'étais jeune diplomate et il voulait me faire passer un message. J'en ai vu d'autres. » Et il me dit, vous savez, moi j'ai fait de la politique toute ma vie. Et vous savez quel était mon slogan, ce qui m'a poussé en avant, ce qui m'a fait avancer toujours. Je dis, non, c'était quoi? En politique, le pire n'est jamais certain. Cette phrase est restée avec moi toute ma vie. Et elle me sert tous les jours. Et je crois que c'est important de raconter cela parce que ce n'est peut-être pas l'image que vous avez les uns et les autres de Pierre Werner. Ou disons que c'est un élément qui pourrait passer inaperçu. J'imagine que ceux qui le côtoyaient de près ne sont pas surpris. Alors aujourd'hui, vous m'avez demandé, j'en suis très heureux et je suis très content d'être là, de parler de la Grande Région, de parler de l'Europe, de parler des deux Luxembourg. Le sujet que j'ai choisi, le rôle de la place financière du Luxembourg dans la Grande Région, est plus un exemple que simplement le cœur du sujet. Mais il est clair, quand on regarde l'historique qui a été fait, je remercie M. Moïse, et quand on entend les paroles introductives de M. Notton, on se rend bien compte que pour le cercle lui-même, comme pour vous aujourd'hui dans la salle, il est clair que la coopération des deux Luxembourg est un peu un noyau dur de l'Europe et qu'il faut élargir la réflexion. Comme je l'ai fait dans le titre d'ailleurs, en parlant de coopération transfrontalière dans la Grande Région. C'est clair que les liens qui nous unissent à la Belgique sont plus profonds et plus anciens que ceux qui nous lient aux deux autres pays voisins. Les sujets que M. Moïse nous a d'ailleurs exposés, j'en ai noté quelques-uns, l'enseignement, la coopération judiciaire, la culture, le logement, les transports, autant de sujets qui, et de préoccupations qui sont permanentes, qui évoluent au fil des années et des décennies, et combien de ces sujets ont d'ailleurs été repris, soit par la Grande Région elle-même, soit en fait par l'Union européenne. J'étais présent à ce colloque en 2011, où Mme Elena Danescu avait fait une présentation, et si mon souvenir est correct, Jean-Claude Juncker y était également. Et ça avait été un beau moment de réflexion, et on était à ce moment-là au cœur de la crise de l'euro et de la zone euro. Et donc, ça s'est reflété aussi dans les réflexions que vous avez projetées. Donc mon intention ce soir est de vous parler un peu en trois parties. Tout d'abord du sujet que j'avais mis en exergue, c'est-à-dire le rôle de la place financière dans le contexte transfrontalier. Ensuite, je voudrais parler un peu dans la deuxième partie du Luxembourg et de la Grande Région, en fait comme laboratoire de l'Europe, et terminer dans la troisième partie par ce qui est quand même le lait le plus profond que Pierre Werner nous a laissé, l'Union économique et monétaire et l'euro, pour faire un rapide panorama, comment cette idée s'est développée et comment elle est très vivante aujourd'hui dans la vie de tous les jours, mais que cette évolution n'est pas terminée, loin s'en faut. Alors, une première chose, le rôle de la place financière dans la Grande Région. Alors, une des choses remarquables de cette Grande Région, c'est que nous avons une mobilité de la main-d'œuvre dans cette Grande Région qui est tout à fait exceptionnelle. Alors, comme nous y vivons tous les jours, nous avons l'impression que c'est une évidence et que c'est partout comme ça en Europe. Ce n'est pas vrai. Nulle part en Europe, il y a une densité de frontaliers comme autour du Luxembourg. Nous avons dans toute la Grande Région à peu près 225 000 frontaliers, mais sur ces 225 000, il y en a 184 000 qui convergent vers le Luxembourg. Ça veut donc dire que si on regarde toute l'Europe, nous avons 13% des frontaliers au Luxembourg. Nous sommes en fait le champion d'Europe des frontaliers. C'est pour ça que je dis toujours à la Commission, quand on parle de ce sujet, je dis, quand vous essayez de changer les règles en ce qui concerne les travailleurs frontaliers, n'oubliez pas de parler avec le Luxembourg, un, parce qu'il a une grande expérience sur le sujet, deux, parce que l'impact des changements est considérable. Alors que pour tous les autres pays, qu'un frontalier paye ses taxes d'un côté de la frontière ou de l'autre est par rapport à la taille du pays relativement secondaire. Alors, où travaillent les frontaliers? Nous avons à peu près 28 000 frontaliers au Luxembourg qui travaillent dans le commerce et la réparation automobile, qui est le premier secteur. Le deuxième, c'est la construction, à peu près 23 000, suivi tout près de la place financière, ou aussi à peu près 23 000 frontalier travail. Ensuite, on en a dans l'industrie manufacturière, dans les services spécialisés et dans le social. Ce qui frappe, c'est qu'il y a en fait une grande diversité et pas une concentration excessive, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le secteur financier. Et il est vrai que dans le secteur financier, les besoins sont aussi très particuliers. Donc, vous avez des gens très hautement qualifiés, comme vous avez des gens qui sont plutôt dans le back-office. Alors, notre place financière, c'est à peu près 27% de notre produit intérieur brut, donc plus du quart. Et c'est certainement la partie de notre économie la plus dynamique et celle avec la plus haute valeur ajoutée. À ceux qui ne vivent pas régulièrement au Luxembourg, je signale un débat qui peut faire sourire au-delà de nos frontières, puisque certains sont en train de nous expliquer que nous avons trop de croissance au Luxembourg, à qui je réponds que c'est un faux débat, pour plein de raisons. La première, c'est que vous ne décidez pas de la croissance économique, mais ce sont les acteurs économiques qui décident d'investir, premier point. Deuxième point, nous avons une croissance qualitative très élevée, surtout dans le secteur financier, puisque le secteur financier représente un peu plus du quart de notre richesse, et le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur financier ne sont que 11% de tous les emplois. Donc les 11% produisent plus de 25% de la richesse. On voit là, cher Hugues, la productivité du secteur financier. Alors, ceci étant dit, cette grande mobilité pose aussi toute une série de défis et d'opportunités. Je commencerai par les opportunités, et j'ai vu que dans le cercle Pervers-Nair, c'est un sujet qui est venu de manière itérative, c'est celui de la formation. Alors j'imagine, en voyant Madame Hennikoschops parmi nous, que quand on a commencé les réflexions dans les années 80-90, on ne songeait point à une université au Luxembourg, chose qui est devenue réalité après. Mais néanmoins, on réfléchissait comment organiser la formation ou l'enseignement de manière intelligente. On se rend compte qu'en fait, en ce qui concerne l'enseignement, il est resté relativement national en ce qui concerne le primaire et le secondaire, et que des pistes qui ont déjà été pensées il y a 30 ans sur de la formation transfrontalière ne se sont pas vraiment développées beaucoup. De sorte que la Grande Région, en 2014, a pris l'initiative de créer un accord cadre. Ça s'est déroulé à Mayence, et dans ce cadre, on a posé les jalons pour développer une coopération transfrontalière pour permettre à des jeunes de faire, par exemple, la moitié de leur formation pratique au Luxembourg et l'enseignement théorique en France, par exemple, ou vice-versa. Mais disons que ces modèles qui existent sont encore quand même relativement ponctuel. Et c'est dommage. Il faudrait approfondir cela, et je sais que le Cercle européen Pierre Werner a beaucoup travaillé sur ce sujet. La deuxième chose, le deuxième sujet que je voulais aborder, c'était le Luxembourg et la Grande Région comme laboratoire de l'Europe. J'ai déjà parlé du nombre de frontaliers qui est très important, mais le point le plus fondamental, c'est qu'au Luxembourg, nous avons aujourd'hui 48% d'étrangers qui vivent sur notre territoire. Dans une ou deux années, on sera à parité. Et c'est un état de fait qui n'existe nulle part ailleurs dans l'Union européenne. Le deuxième pays avec un nombre d'étrangers assez élevé sur le continent européen, c'est la Suisse, qui a 22% d'étrangers. La composition de notre population étrangère est à grande majorité européenne et communautaire, ce qui facilite bien sûr leur intégration, mais pose aussi des défis que nous rencontrons tous les jours dans les médias de l'Europe. Lorsque j'ai dit pendant la visite d'État à Paris, au cours des deux derniers jours, à certains de mes interlocuteurs que j'ai rencontrés, qu'on avait 48% d'étrangers, ils ne vous croient même pas. Vous êtes trompé d'une virgule, ça doit être 4,8. Et donc, on se rend compte que nous vivons, nous sommes un véritable laboratoire de l'Europe. Ça crée des opportunités, ça crée aussi des défis. Un des grands défis, c'est le transport. Alors, c'est un sujet que nous avons abordé en long et en large pendant la visite d'État avec nos amis français. Peut-être que vous avez lu que nous avons signé un accord bilatéral avec la France pour cofinancer des infrastructures ferroviaires côté français, et parce que c'est une situation gagnant-gagnant que de développer le ferroviaire ensemble. Ça permettra d'avoir plus de fréquences de train. On va multiplier le nombre d'usagers qui pourront utiliser le train par 2,5. On pourra avoir davantage de trains plus longs, des quais plus longs côté français, et dès lors réduire la présence de voitures sur les routes. Ce qui est bien non seulement pour nos amis français, mais qui est bien aussi pour les résidents au Luxembourg, parce que toutes ces personnes-là n'emprunteront pas les autoroutes et les routes au Luxembourg. Nous avons aussi dans cet accord prévu de financer des parkings côté français, cofinancés avec la France, donc pour encourager les gens à arriver jusqu'à la frontière et puis faire du covoiturage ou avoir des bus qui prennent le relais. Tout ça, me semble-t-il, fait partie du bon sens et s'inspire du précédent que nous avions déjà fait au Luxembourg dans les années 90, lorsque nous avons décidé de cofinancer le TGV, qui avait aussi donné lieu à certaines discussions. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que cette décision à l'époque était la bonne, parce que sinon le TGV ne serait pas venu jusqu'au Luxembourg. Et ici, de même, il s'agit d'avoir une réflexion intelligente. Alors, lors de la rencontre de 1978, si j'ai bien retenu, M. Werner et M. Charles-Ferdinand Nothomb ont déjà pensé un peu aux frontaliers. Le hasard fait que je crois me souvenir que le chiffre, je ne l'ai pas ici dans mes notes, et ne m'en voulez pas si je me trompe, mais d'habitude j'ai une bonne mémoire des chiffres. En 1978, il y avait 18 000 frontaliers. 18 000. Et à l'époque, beaucoup de gens disaient « c'est énorme ». Nous en avons aujourd'hui 10 fois plus, même un peu plus que 10 fois plus, puisqu'on en a 190 000. Et il y a des gens qui disent « et ça ne peut pas aller au-delà ». Mais je peux vous dire que les autorités françaises pensent que d'ici 10 ans, il n'y aura, au lieu de 90 000 frontaliers français, il y en aura 130 000. Donc ce sont des défis considérables. Alors je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que ce n'est pas une bonne politique, on peut en discuter, il y a des arguments en faveur et il y a des arguments opposés. Simplement, c'est extrêmement simple, si nous voulons avoir de la croissance, eh bien, il faut augmenter le produit intérieur brut. Et nous avons eu un test de grandeur nature entre 2008 et 2013 au Luxembourg, où, comme dans la plupart des pays européens, il n'y a pas eu de croissance pendant 5 ans. Et nous avons vu que les déficits se sont envolés, la dette a triplé, le chômage s'est emballé. Et c'est grâce à cette marge de manœuvre qu'on avait que, en fait, les répercussions sociales de ces 5 ans sans croissance n'ont pas été dramatiques. Mais dans la plupart des autres pays européens qui n'avaient pas de marge de manœuvre, les conséquences ont été dramatiques. Mais donc n'oublions pas que sans croissance, c'est très difficile. Mais la croissance doit être qualitative et elle doit être organisée aussi d'un point de vue territorial, d'un point de vue de l'aménagement du territoire. Et là, le Luxembourg est déterminé, dans cette idée un peu de laboratoire de l'Europe, de déterminer son développement territorial en étroite collaboration avec les trois pays voisins. Et cela fait du sens, pas seulement pour le transport, mais pour toute autre politique qu'on veut mener des deux côtés des frontières. Et je crois que ce sera une très bonne chose que d'approfondir ce dialogue que appelait déjà de ses voeux Pierre Werner, parce que c'est une manière intelligente d'organiser l'Europe. Alors l'Europe des régions est devenue une réalité d'une certaine manière, mais je crois que même les fonds de cohésion ont une vision assez je dirais, binaire de ce qu'il faut faire avec les fonds structurels. En fait, on est surtout dans une logique nord-sud ou est-ouest. Je m'explique, les fonds de cohésion sont là pour essayer de réduire les écarts de richesse entre les pays relativement riches et ceux qui le sont un peu moins. Donc c'est un peu une dynamique nord-sud. Et puis aussi de compenser le retard accumulé par les pays d'Europe orientale qui sont restés coupés de l'Europe jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc ce rattrapage-là explique aussi beaucoup de fonds qui vont de l'ouest vers l'est. Et en revanche, il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits, pas assez de moyens qui sont mis en œuvre pour faire l'Europe des régions. Alors, au sein de la grande région, récemment, on a, dans ce domaine justement de l'aménagement du territoire, fait une demande auprès du FEDER pour développer des politiques cohérentes autour du Luxembourg dans notre grande région. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et ça, c'est le type de sujet que vous évoquiez dans l'histoire du cercle européen Pierre Werner. J'en viens maintenant à ma troisième partie, qui est celle consacrée à l'euro. Alors, je pense que si on faisait un sondage auprès de non-luxembourgeois, donc en dehors de notre pays, et qu'on citerait le nom Werner, 3 personnes sur 4 vous diraient « rapport Werner ». Pierre Werner fait déjà partie de l'histoire de l'Europe en 1970, lorsqu'il présente son rapport. Il a eu la chance et l'habileté de participer à l'évolution de la monnaie commune dans les années qui ont suivi, mais entre le rapport Werner 1970 et le traité de Maastricht 1993, il y a 23 ans, et jusqu'à l'introduction de l'euro en 2002, il y a 32 ans. Pourquoi j'insiste sur cet élément? Parce que je trouve qu'on a tendance, lorsqu'on parle de l'Europe, lorsqu'on réfléchit aux défis de ce continent, on a tendance à être très sévère et de vouloir faire les choses très vite. Alors, loin de moi l'idée de vouloir ralentir l'Europe, mais soyons réalistes, entre 1970 et 2002, 32 ans, c'est une génération, c'est un peu plus qu'une génération. L'euro, aujourd'hui, qui a été introduit en 1999 et en 2002 avec des billets et des monnaies, alors prenons 99, parce que pour les banques centrales, c'est ce qui compte, l'euro a 19 ans. C'est encore un teenager. Et tous ceux qui critiquent l'euro le critiquent par rapport au dollar, par rapport à d'autres monnaies, et en disant ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. N'oublions jamais cet argument que nous avons avec l'euro une construction inédite, une aventure qui n'a jamais été tentée par personne. Et en fait, un projet monétaire qui est un projet économique, financier et finalement un projet de paix. C'est donc un projet d'une ambition absolument extraordinaire. Alors vous devinez par mes paroles que je suis un grand fan de l'euro, je l'ai toujours été, je l'ai été du premier jour quand ça s'appelait encore l'écu, dans les années 70, le précurseur de l'euro. Et ce scepticisme que certains analystes montre par rapport à l'euro, on le trouve par rapport à l'Europe en général tout le temps. Et en cette époque de nationalisme rampant, ou parfois spectaculaire, en cette époque de populisme exacerbé, vous allez toujours retrouver ce mécanisme qui dit « mais de toute façon, ça ne marche pas ». Je vais prendre l'union bancaire. Je fais un grand saut et je reviendrai à l'euro à tout à l'heure. Quand, au milieu de la crise financière de 2008-2013, au milieu de cette crise, on a eu la crise grecque, les problèmes des banques, l'Europe a décidé de faire l'union bancaire. Moi, je m'en rappelle, à l'époque, je n'étais pas un ministre, je lisais ça dans les journaux, le nombre d'observateurs qui disaient « c'est infaisable ». on ne peut pas faire une union bancaire parce que ça présuppose toute une série de choses. On doit se mettre d'accord sur la supervision, sur la résolution, sur les dépôts de garantie. On ne va jamais réussir. On ne va pas le faire. L'Europe ne se mettra jamais d'accord. J'ai eu la chance d'assister en 2013 à mon premier Eurogroupe en décembre 2013, où l'union bancaire, le texte, le traité, a été agréé au niveau des 19 pays qui participent. Et après ça, pendant 6 mois, 1 an, on disait, oui, vous vous êtes mis d'accord sur le traité, mais vous n'allez jamais être capable de le mettre en œuvre. Vous ne réussirez jamais à faire une supervision commune pour les banques systémiques, etc. Donc toujours ce doute, et aujourd'hui, en 2018, et je reviendrai après aussi sur l'union bancaire, avec le recul, on peut dire en 5-6 ans, on l'a fait l'union bancaire. Elle marche plutôt bien. Bien sûr qu'il y a des pannes, bien sûr qu'il y a des défauts, mais ça fonctionne. Et la stabilité financière aujourd'hui, en 2018, est nettement meilleure que pendant la crise financière, est nettement meilleure qu'avant la crise financière où nous étions seuls. Quand on me demande est-ce que l'union bancaire c'est bon pour le Luxembourg, mais je leur dis, mais la réponse elle est simple. Est-ce que c'est mieux quand il pleut de se protéger avec un petit parapluie luxembourgeois ou avec un gigantesque parapluie européen? Tout le monde comprend tout de suite. Pas besoin d'avoir fait des grandes études pour ça. Et donc, l'idée fondamentale de Pierre Werner dans son rapport que j'ai lu quand j'étais étudiant, c'était de dire, mais il faut se préparer ensemble à créer cette monnaie. Alors, on a eu le serpent monétaire, vous vous en souvenez, l'écu. Et peut-être ce qui a donné le coup d'envoi d'une possibilité d'euro, c'est quand même le grand marché unique. Idée de Jacques Delors, qui avait été préparée d'ailleurs par Gaston Thorn lorsqu'il était président de la Commission entre 1980 et 1984, et que Jacques Delors a repris au vol dès qu'il est devenu président de la Commission, et qui est une des plus belles histoires de succès de l'Union européenne. Je dirais peut-être un peu le seul morceau d'histoire de l'Union européenne que le Royaume-Uni a toujours aimé. Sans aucun doute. Parce que sur toutes les autres, il était plus spectateur que amateur. Et donc, ce grand marché unique qui a commencé à marcher à la fin des années 80, début des années 90 et qui était achevé en 93, nous a valu beaucoup de choses, nous a valu beaucoup d'investissements extérieurs. Parce que les Américains, les Japonais pensaient qu'on allait faire une forteresse Europe. Vous vous souvenez peut-être de ce terme. Et en fait, ce n'était pas du tout le but, mais ça nous a fait venir beaucoup d'investisseurs qui, après, étaient d'ailleurs très contents d'être venus parce qu'ils profitaient de ce grand marché. Ça a été une dynamique extraordinaire. Tous ces capitaux qui rentraient ont bien sûr facilité aussi les balances commerciales et la balance des opérations courantes de tous les pays européens et a renforcé le Deutsche Mark, mais pas que le Deutsche Mark, les autres monnaies aussi. Ce qui fait qu'on était dans un moment économiquement propice. Puis est venue, bien sûr, la chute du mur de Berlin, l'écroulement de l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique, et on a eu une fenêtre d'opportunité politique. Les deux choses s'étant conjuguées, on a réussi, avec une accélération phénoménale entre 1988 et 1993, en 5 ans, de faire la monnaie unique. Et cette monnaie unique, comme je le disais donc tout à l'heure, elle a eu une crise d'adolescence. Et comme dans toutes les crises, vous avez toujours les pessimistes qui vous disent, je vous l'avais bien dit, l'euro va s'écrouler, il va disparaître. Et je dois dire que j'étais là dans le feu de l'action puisque j'ai pris mes fonctions en 2013, la crise grecque qui a perduré et la lenteur avec laquelle on a réussi à résoudre certains problèmes ont par moments pu faire douter les uns ou les autres. Mais en réalité, si vous regardez ce qui s'est passé entre 2008 et 2015, l'Europe et surtout la zone euro, a su répondre aux défis qui se posaient à elle. N'oublions pas que la crise économique et financière de 2008 est la plus spectaculaire depuis celle des années 20. Donc, c'était pas facile de trouver des réponses. Alors, j'ai parlé de l'union bancaire, qui était une des réponses, et surtout, on a renforcé la discipline budgétaire avec le two-pack et le six-pack, des traités qui ont été mis en œuvre, qui renforcent la discipline budgétaire, renforcent l'importance du critère de la dette, et qui surtout ont aussi instauré un volet préventif pour éviter les dérapages. Parce que c'est comme à l'école, il vaut mieux faire en sorte que les élèves travaillent régulièrement et bien pour éviter d'avoir des mauvaises notes, parce qu'une fois qu'on a des mauvaises notes, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Et donc ce volet préventif nous aide aujourd'hui en Europe. La bonne nouvelle, et je crois que si Pierre Werner était parmi nous, mais de là où il est, il doit nous suivre de près, il doit être très content, parce que la crise nous a permis de nous améliorer. Et aujourd'hui, pour le dire simplement, les 19 pays de la zone euro respectent grossièrement presque tous les critères, à l'exception de la Grèce, mais qui est un pays qui est dans un programme compliqué. Mais même la Grèce se porte nettement mieux, avec l'espoir de sortir du programme à la fin de l'été de cette année. Quelle belle histoire que celle de l'euro, qui s'appelait avant l'écu, et que Pierre Werner avait peut-être imaginé avant nous tous. Et finalement, que de raconter l'histoire de l'euro en partant du rapport Werner, c'est un peu comme raconter l'histoire de Pierre Werner lui-même, qui pensait que dans la politique, le pire n'est jamais certain et le mieux peut même arriver. Si vous n'en avez pas marre de moi, je suis prêt à prendre des questions. Oui.
Les médias se sont fait l'écho cette semaine d'un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La question, c'est vis-à-vis de la place du Luxembourg, quel est l'impact du Brexit au niveau de la place financière, que ce soit au niveau des finances ou au niveau assurance?
Oui. Donc, c'est très. Bon, bien sûr, c'est une très bonne question, mais je vais commencer par quelque chose qui va vous paraître anecdotique, mais qu'il faut souligner parce que ça a un lien avec ce que je racontais tout à l'heure. Si vous n'êtes pas expert de ce dossier, moi j'ai lu ça lundi dans les journaux français puisque j'étais à Paris, accord sur le Brexit. Vous avez lu ça aussi, je pense. Ah ben j'ai vu, c'est fantastique. Je dis un peu de manière humoristique, mais je dis, mais c'est extraordinaire, accord sur le Brexit. Alors il faut lire déjà le sous-titre, on s'est mis d'accord sur certaines choses. Et puis après, il faut lire tout le texte, et de certaines choses, ça ne veut pas dire ceci, dit l'un, mais ça veut dire autre chose, dit l'autre. On s'est pas mis du tout d'accord sur le Brexit. Mais les Anglais et les Européens ont communiqué qu'ils s'étaient mis d'accord sur certains points. Et donc, c'est cette difficulté dans tous les dossiers européens d'appréhender cela dans le temps, sur l'axe de temps. Comment voulez-vous que le public suive? Vous allez me dire, de toute façon, le public, il n'en a rien à faire du Brexit. Si vous habitez à Clermont-Ferrand ou à Esch-sur-Sûre ou à, je ne sais pas moi, à Düsseldorf, ça ne vous touche pas le Brexit. C'est des sujets complexes qui n'intéressent que des spécialistes, bien sûr. Si le Brexit, ça voulait dire que demain je perds mon emploi, alors là, ça m'intéresse. Mais le Brexit intéresse surtout le Royaume-Uni. Je dirais que jusqu'à il y a un an, c'était dans les 3-4 premières priorités de la plupart des pays européens. Maintenant, ça a glissé. C'est plus dans le top 10 dans aucun pays européen sauf le Royaume-Uni. Disons que ça relativise les choses. Pour le Luxembourg, le sujet est néanmoins particulièrement sensible et important parce que nous sommes une place financière internationale importante. Et d'ailleurs, tous les observateurs sont d'accord. Ils disent que les services financiers, c'est le plus grand enjeu du Brexit et c'est aussi la plus grande difficulté. Alors, enjeu, pourquoi? qu'est-ce qu'on veut après le Brexit? Je suis un peu long sur le sujet, mais je pense que ça c'est intéressant de comprendre ce qui se passe. L'enjeu, c'est est-ce que à la fin de la période de transition sur laquelle il y a un accord, il y aura une période de transition qui va donc aller de mars 2019, date de la sortie officielle, jusqu'à la fin de 2020, donc presque 2 ans de transition. Est-ce que après cela, et maintenant je parle surtout de Londres, place financière et de l'Europe, est-ce qu'on a envie de déboulonner Londres? Est-ce qu'on a envie vraiment d'affaiblir fortement Londres et de redistribuer les cartes en Europe, à supposer que ce soit possible? Ou est-ce qu'il serait bien de transformer l'autoroute qui existe actuellement entre Londres et le continent, c'est ça l'accès au marché unique, c'est l'Europe du passeport pour les personnes, mais pour les biens et les services et pour les capitaux, donc c'est l'autoroute. Est-ce qu'on veut transformer cette autoroute en passerelle? Vous comprenez bien que la passerelle est beaucoup plus étroite. Mais néanmoins, c'est une passerelle. Mais il y en a qui ne voudraient même pas de passerelle. Il y en a qui voudraient que ce soit aussi difficile que possible. Donc il y en a qui veulent punir Londres en tant que place financière. Et je crois que, comme si souvent, la meilleure des solutions est quelque part au milieu. Parce que au cas où on devrait réussir à déboulonner Londres, au cas où une grande partie des transactions et des affaires qui sont faites à Londres ne viendront pas vers l'Europe. Ils iront vers les États-Unis et vers l'Asie. On récupérera une partie. Et le résultat des courses, c'est que la plus grande place financière ne sera plus en Europe. Elle sera aux États-Unis ou elle sera en Asie. Est-ce un bon choix? Non. Donc, il faudra trouver une voie du milieu. Alors, à court terme, la sortie du Royaume-Uni pour le Luxembourg a été une bonne chose, parce que nous avons vu que toute une série d'acteurs de Londres ont dû se positionner et choisir un pays en Europe pour avoir accès au marché unique, en ouvrant des filiales. Et le Luxembourg est certainement un des pays qui a eu le plus de succès. C'est très visible dans le domaine des assurances, où presque toutes les sociétés d'assurance américaines et asiatiques et surtout japonaises ont choisi Luxembourg. Il y en a une qui a choisi Bruxelles, c'est la plus fameuse, c'est Lloyd, mais la plupart des autres ont choisi notre pays. Dans les asset managers et les private equity funds, ils ont presque tous aussi choisi Luxembourg. Certains étaient déjà là avec des petites unités, ils vont s'agrandir. Et dans la banque privée, quelques grands acteurs américains ont décidé aussi de renforcer leur présence à Luxembourg. Et puis, il y a toute la problématique des fintechs. Je terminerai là-dessus. Les fintechs, on a été assez surpris de voir combien des jeunes pousses, des jeunes entreprises présentes à Londres nous disent « On avait choisi Londres parce que c'est la place financière la plus grande du monde, mais maintenant qu'on sait qu'on va perdre l'accès au marché unique, c'est plus important d'être au centre de l'Union européenne, sur le continent, parce qu'une fois qu'on a développé notre produit, il faut qu'on puisse le vendre à tout le monde. Et donc, de rester à Londres avec des risques, est-ce qu'il y aura une passerelle ou pas, c'est un risque trop grand. Et on se rend compte, et ça confirme ce que sont les fintechs et toutes les sociétés nouvelles et numériques, ce qui est essentiel, ce sont les données, data. Avoir des données et pouvoir les transférer, les utiliser. Si vous êtes à un endroit où la circulation de ces données est limitée, eh bien, vous ne pouvez pas vous développer. Oui ?
J'aimerais beaucoup aller un peu plus loin dans cette question. Est-ce que lorsqu'on discute justement de l'accès britannique au marché européen, on ne se focalise pas trop sur l'aspect free trade agreement, c'est-à-dire la circulation, et on oublie le côté souveraineté. Parce qu'il me semble que la grande difficulté qui existe, c'est que si Londres reste le centre, par exemple, pour le clearing et pour les dérivés, à hauteur de 70% des transactions qui se font sur le marché international, il me paraît difficile de concevoir que la Banque centrale européenne transférerait à la banque, Bank of England, la responsabilité de la stabilité financière qui pourrait être mise gravement en question par une concentration à Londres des transactions. Donc pour moi, c'est une question de souveraineté et pas une question de liberté de transaction.
Mais je vous donne tout à fait raison sur l'exemple important que vous prenez du clearing. Le clearing est fait à Londres. Pour l'instant, vu que le Royaume-Uni est dans l'Union européenne, ça ne dérange personne. À partir du moment où il quitte l'Union européenne, c'est un vrai problème. Je pense que là, il y a un relativement grand consensus chez les 27 qu'il va falloir rapatrier cela dans l'Union européenne, où que ce soit d'ailleurs. Je n'ai pas d'idée absolument ferme sur le sujet, mais il s'agit effectivement d'un problème de stabilité financière essentiel relié à la souveraineté des banques centrales et de la Banque centrale européenne. Et c'est un peu compliqué d'imaginer qu'on puisse laisser cela à Londres. Mais c'est vraiment l'exception. Pour tout le reste, je pense qu'il faut trouver des solutions pragmatiques. Oui, madame ?
Bonjour, Julie Huisson. Je suis doctorante actuellement au CREM à l'Université de Lorraine. Sur les questions de mécénat transfrontalier en art contemporain, dire les territoires et leurs possibles. Donc c'est une question de l'espace, à la fois l'espace des arts, mais également l'espace des entreprises et des individus, donc des parties prenantes, des citoyens. Et comment organiser la culture ? Donc je suis beaucoup plus légère dans mes questions. Ça n'a rien à voir avec l'économie et le Brexit. Mais c'est tout aussi important, c'est comment organiser la culture de demain sur notre territoire symbolique, c'est-à-dire un territoire qui est à la fois industriel et qui est celui des barons du fer. Et on a cette histoire commune entre les quatre pays, l'Allemagne, la Belgique, la France et le Grand-Duché. Et nous avons vu que vous avez chacun apporté des solutions novatrices. Et ces solutions novatrices ont été apportées en priorité par les industriels et ensuite toute l'élite sociale. Alors aujourd'hui, en tant que ministre des Finances au Luxembourg, moi j'ai j'ai un rêve et j'ai que 40 ans et je suis sûre qu'on va pouvoir l'accomplir ensemble, c'est-à-dire organiser le mécénat transfrontalier. Alors, quand le Luxembourg nous donnera-t-elle l'opportunité de créer une loi transfrontalière qui soit aussi intéressante que celle en France, en Belgique et en Allemagne, de manière à créer une véritable économie culturelle, source de développement durable et pour notre avenir.
On a combien d'heures ? C'est un superbe sujet. À l'apéritif, après, on pourra en parler aussi. Mais déjà, dans votre question, vous évoquez une difficulté légale qui me paraît colossale. Comment organiser un espace légal limité, donc prenant la grande région, avec des lois particulières qui seraient différentes que celles qui existent en France, en Belgique, au Luxembourg et en Rhénanie-Palatinat et en Sahara. Légalement parlant, c'est déjà très difficile à concevoir. Donc ça, c'est un sujet, si je voulais répondre très simplement, ça se pose surtout à l'échelle européenne. Si on veut créer un marché de l'art très dynamique, avec, comme le font nos amis français, des conditions fiscales et autres relativement avantageuses. Alors, essayons de le faire à l'échelle de toute l'Europe. De manière plus spécifique, votre question suscite une autre réflexion, mais qui n'est pas nécessairement seulement concentrée sur l'art. Ce serait de faire des zones franches autour du Luxembourg, mais disons dans la grande région. Et je pense par exemple à une maison de la formation. Je prends un exemple concret. Une maison de la formation qu'on pourrait très bien mettre côté français, qu'on cofinancerait tous ensemble, Mais vous devez, supposons qu'on ait des centaines de formateurs, qu'on ait des milliers de personnes qui viennent se former là, vous avez la difficulté que les salaires, les contributions pour les salaires, la sécurité sociale, etc., au Luxembourg est nettement moins élevée qu'en France, et que vous n'avez jamais réussi à convaincre un opérateur privé de s'installer côté français. Ce qui veut dire que ça va me coûter deux fois autant en coût de main-d'œuvre. Et en même temps, il sera très content d'être du côté français parce que le prix du terrain sera un quart de ce qu'il coûte de l'autre côté. Et puis, disons que sur l'environnement, on pourrait peut-être penser, et c'est peut-être même vrai, que les conditions environnementales sont les mêmes parce qu'il y a une directive européenne, l'hygiène aussi, tout ça, c'est réglementé dans des directives. Donc, il y aurait trois, quatre sujets qu'il faudrait régler dans une telle zone franche, transfrontalière, où on créerait des conditions particulières. Mais alors, il faut bien choisir son sujet. Je trouve que la formation en est un bon. On pourrait penser à un hôpital, on pourrait penser à de la recherche dans certains domaines. Et alors là, on irait vraiment bien plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent dans l'Union européenne, où on essaye d'harmoniser, et c'est très bien. C'est une méthode très, très efficace. Mais ici, on dirait... Mais comme nous avons cette coopération qui va déjà assez loin, on a beaucoup parlé des 190 000 frontaliers, on pourrait en avoir davantage qui restent côté français pour parler de la France, vous êtes française, on organise un pôle d'emploi avec une valeur ajoutée extraordinaire côté français dans des conditions concurrentielles qui soient telles que ce soit aussi économiquement viable. Donc je pense qu'il y a des pistes. Mais et donc, pourquoi pas l'art? Pourquoi pas l'art? Oui.
Vous avez quand même un outil, on a une force en France, mais une faiblesse, et cette faiblesse est compensée par le Luxembourg. Notre force, ce sont les fonds de dotation. Ège 2022, vous avez la CCPHVA, donc 7 communes du côté français, 8 communes pro-sud du côté luxembourgeois. Pourquoi ne pas imaginer la création d'un fonds de dotation territorial transfrontalier pour justement créer un premier élan? Et ça ne serait pas une zone franche, parce que je n'aime pas ce mot de zone franche, surtout avec les polémiques stériles qu'on a actuellement entre la France et le Luxembourg. Et moi, je suis franco-belge-luxembourgeoise.
C'est pas mal.
C'est pas mal, hein. Et je trouve ça tellement petit, rabaisser le problème à juste à un problème d'imposition, je trouve ça stérile. En revanche, notre défi pour 2022 est assez intéressant. Ça nous permettrait peut-être d'être novateurs en termes de cluster culturel pour tout le reste de l'Europe, d'être vraiment pilote sur ce type de construction en utilisant le mécénat comme levier principal.
Oui, deux remarques. L'emploi du mot zone franche, dans le contexte de notre discussion, ce n'est pas limité à des questions de fiscalité, mais comme je l'ai dit, je pense que ça devrait être une zone de droit spécial, on va l'appeler comme ça. Donc ça couvrirait de très nombreux pans. Sur ESH 2022, je trouve que il faudrait réussir, justement, comme Esch est ville frontière, je suis d'ailleurs de cette ville, j'y habite, j'aimerais qu'on trouve des formules pour associer les communes françaises de l'autre côté. On est en train d'essayer d'associer les communes luxembourgeoises, croyez-moi, c'est d'une grande aisance, et si on doit le faire de l'autre côté, ce sera encore plus aisé. Non, il faut faire quelque chose d'original dans le contexte d'Esch 2022, et notre passé industriel commun s'offre à nous comme un des vecteurs sur lesquels on peut travailler ensemble. J'ai été pendant presque 10 ans président de la Fondation Bassin Minier, qui rassemble tous les acteurs du Sud dans le domaine de la culture, et j'ai vu combien de points communs nous avions entre nous, bien sûr, dans le Sud, dans le bassin minier, mais aussi avec les régions frontalières, tant en France, le plus en France, parce qu'on a une frontière qui est vraiment longe le minerai de fer, et, mais aussi avec la Belgique et avec l'Allemagne. Il faut faire ça. Oui.
Bonsoir. Donc, mon nom est Benoît Migeot. Je suis président de la commission des frontaliers belges du LCGB et de la CSC, hein, de syndicat luxembourgeois, syndicat belge. Et il y a quelques semaines, j'avais lu des propos du vice-premier ministre luxembourgeois qui parlait de la croissance. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, en disant que pour l'avenir, la croissance de Luxembourg devrait être plus limitée ou sélective, et en tout cas qu'elle soit une croissance qui favorise moins l'emploi frontalier, parce que celui-ci aurait un coût pour le Grand-Duché de Luxembourg, notamment un coût environnemental en termes de mobilité. Et ces propos m'ont un peu surpris. Alors est-ce que je les ai bien lus? Est-ce que c'est bien des propos qu'on prête à M. Schneider? Est-ce que c'est bien la position du gouvernement luxembourgeois? J'aurais aimé avoir votre avis sur la question.
Je pense que M. Schneider s'est exprimé dans ce contexte un peu d'une manière personnelle, aussi dans le contexte d'une élection à venir. Donc chaque parti est en train de peaufiner son programme et de se profiler. Je dirais sur la croissance qualitative, j'en ai parlé un peu dans mon exposé, je dirais deux, trois choses. La première, je le répète, nous vivons au Luxembourg, et j'en suis très content, dans une économie de marché. Si un investisseur se présente et dit « je veux investir 10 millions d'euros dans une petite fabrique, que sais-je, petite fabrique de verre, je vais respecter toutes les lois, celles de l'environnement, celles de l'aménagement du territoire, je respecte toutes les lois et je désire investir 10 millions d'euros au Luxembourg et créer 30 emplois. Sur quelle base va-t-on ou veut-on dire à cette personne, écoutez, vous savez, nous, on a déjà assez de verre au Luxembourg, on a déjà assez, allez voir ailleurs, c'est absolument invraisemblable. Alors, je prends bien sûr un exemple concret pour montrer que c'est très difficile de faire. C'est beaucoup plus facile de donner des exemples négatifs. Quelqu'un qui dit, qui vient, écoutez, moi je vais polluer allègrement, mais par ailleurs, ça va vous créer des emplois. Là, c'est facile de dire, vous ne respectez pas les lois, et donc vous n'avez pas le droit de le faire. Mais quelqu'un qui respecte toutes les lois, première remarque. La deuxième, avec des salaires quand même relativement élevés au Luxembourg, des contributions sociales peu élevées, certes, mais quand même, un coût horaire qui est parmi les plus hauts de toute l'Europe. Nous sommes déjà dans une économie très développée et très qualitative. J'ai cité tout à l'heure la place financière. Nous pouvons orienter positivement certains investissements en disant, par exemple, dans le domaine fintech ou dans le domaine, environemental, on va, en respectant les règles de l'Union européenne, favoriser l'une ou l'autre chose, proactivement, ça c'est faisable. Mais de la manière négative, je ne vois pas. Alors il y a deux autres choses qui sont très importantes. Un, c'est le numérique, et l'autre, c'est le télétravail. Alors, sur le numérique, il est quand même clair que c'est très facile de se délocaliser. On peut faire quelque chose à partir de Luxembourg, à partir de la Belgique, très très facilement. Et donc, je pense qu'on vit encore trop, nous tous, enfin, je parle maintenant pour moi, dans ce monde réel d'une industrie, j'ai pris moi-même un exemple, qui s'installe, qui fait un hall industriel, voilà. La plupart des modèles économiques aujourd'hui sont digitaux, ce sont des applications, c'est de la technologie de l'information, c'est un grand choix où est-ce que vous pouvez vous installer. Et vous pouvez avoir, et ça se fait beaucoup sur la place financière de plus en plus, vous avez des banques qui font faire leur comptabilité en Inde. Ce n'est pas un problème. Et puis le responsable final est peut-être ici. Et donc, tous les modèles de développement vont évoluer extrêmement rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le télétravail. Le télétravail, là, c'est plus particulier pour les frontaliers, Donc là, je ne parle pas de l'Inde, évidemment, mais donc on pourrait inventer toute une série de mesures, pas seulement d'ordre fiscal, pour encourager les gens de travailler de chez eux. Alors, si on prend le cas d'un frontalier qui travaille de chez lui, comment appliquer les règles existantes ? Vous savez que nous avons négocié avec la France et signé il y a 2 jours un nouvel accord de non-double imposition. Nous avons une franchise, un seuil de 29 jours, pendant un seuil de tolérance de 29 jours, qui n'est pas donc considéré pour des raisons fiscales. Donc vous pouvez 29 jours travailler hors de Luxembourg sans que ça ait des répercussions fiscales. Si vous travaillez au-delà de 29 jours, tous les jours où vous avez travaillé à l'extérieur sont taxés en France. Télétravail, ça ne rentre pas dans cette catégorie, c'est quelque chose de complètement différent. Il faudrait négocier avec nos 3 pays voisins, et je suis en train de prendre des contacts avec les 3 pays pour voir s'ils sont partants sur ce sujet, d'organiser cela. Il y a d'autres possibilités de le faire. Le Premier ministre Xavier Bettel, dans son discours sur l'état de la nation l'année dernière, a dit, et on est en train d'y travailler, qu'on allait encourager des bureaux multiples, ouverts à des sociétés, pour justement éviter que tous les frontaliers se précipitent vers Luxembourg-ville. Donc ce serait le long des frontières, avoir des bureaux sur le territoire luxembourgeois, c'est plus simple, parce que là on connaît le droit, la fiscalité, mais on pourrait, dans un raisonnement qui va au-delà, pour revenir à la question des zones à statut spécial, on pourrait aussi imaginer cela de l'autre côté de la frontière, mais alors il faut définir un cadre de règles. Donc, en résumé, ce que Étienne Schneider a dit, à mon avis, est aussi quand même du bon sens. On doit faire en sorte qu'on utilise la technologie moderne de telle façon qu'elle désengorge nos routes quand c'est possible, désengorge les trains et permette de travailler à distance. C'est bien. Merci.